La véritable cible est écartée lorsqu'on débat de l'existence de l'aliénation parentale et de l'injustice subie par certaines mères en raison de violences conjugales non décelées. En réalité, selon la littérature et la pratique clinique, souvent les deux phénomènes existent et même s'interrelient. Certains parents accusent à tort leurs coparents de ne pas être en mesure de s'occuper de leurs enfants et alimentent ainsi une dynamique aliénante. Parallèlement, des auteurs de violences vont adopter des comportements aliénants pour maintenir une emprise sur la violence. Au lieu de débattre de l'existence de ces problèmes, puisque si on clive un concept au détriment d'un autre, on est en train de dire que le vécu de certaines familles n'existe pas. Comment les enfants vont être protégés dans ces cas-là?
Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode.
Allô à toi qui m'écoute, je te souhaite une belle journée et aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est pas ce qui était prévu au menu, mais je pouvais pas passer sous silence tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Tu as peut-être déjà remarqué, en fait, dans les médias actuellement, au niveau des différentes grandes chaînes médiatiques, là, en fait, soit à Cube, soit dans Le Devoir, soit dans la presse, soit avec Radio-Canada. On entend beaucoup parler de violence conjugale versus aliénation parentale. Dans les dernières semaines, il y a une journaliste, en fait, Yasmine Abdel-Fadel, qui a fait un reportage avec le ministre Carman et qui a, par la suite, eu une vague d'articles qui a paru après ça dans différents médias. Et il y a aussi eu une conférence qui s'est tenue le 7 février dernier par un regroupement d'associations qui luttent justement pour la violence conjugale. Et là, je me suis dit, attends un petit peu, là. Comme dirait une de mes collègues, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? Alors, dans mon propos d'aujourd'hui, j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre que j'ai envoyée aux différents médias et j'ai contribué aussi à l'écriture d'un dossier qui en lien, en fait, avec la journaliste Émilie Dubreuil, qui travaille activement sur ce projet-là. Je vais vous mettre tous les liens dont je vous parle aujourd'hui dans le descriptif de l'épisode, OK? Mais c'est trop important de bien choisir ses mots. Alors aujourd'hui, je te fais une lecture. Aujourd'hui, je te fais la lecture de ma lettre et je me positionne en tant que, oui, travailleuse autonome, professionnelle, psychoéducatrice, psychothérapeute, médiatrice familiale, coach parental, auditeur amiable pour enfants et aussi ancienne ARH, psychoéducatrice de la DPJ. Ça va bientôt faire, mon Dieu, déjà, on est en 2024 au moment où est-ce que j'enregistre et j'ai quitté officiellement mes fonctions partiellement en 2016, puis complète à peu près en 2018-2019. Et quand je suis partie de la protection de la jeunesse, c'est pas parce que j'aimais pas ma job. Je l'adorais, ma job. C'est vraiment parce que c'était de moins en moins aligné avec mes valeurs et que j'avais de moins en moins l'impression que j'avais une autonomie professionnelle et j'entérinais de moins en moins les décisions qui étaient prises parce qu'elles étaient souvent, elles étaient administratives et de moins en moins clinique, et je voyais la dichotomie puis entre le vouloir et le pouvoir. Puis c'est venu clasher trop, fait que j'ai quitté. Je voulais pas non plus un jour avoir le prochain bébé mort sans conscience. C'est plate, c'est difficile, c'est dur ce que je dis, mais c'est aussi ça. Parce que quand on travaille en protection de la jeunesse, on gère du risque. Puis quand tu finis ton chiffre à 4h30, ben, tu te demandes est-ce que toutes mes familles vont bien puis est-ce que demain matin, je vais avoir quelque chose dans les médias. T'sais? Fait que il faut que tu te... Des fois, c'est ça, il faut que tu prennes des décisions. Bien sûr, il y a l'urgence sociale qui est toujours là et je pense vraiment que la DPJ, les intervenants qui sont là ne sont pas seuls. C'est toute une question de société. C'est facile de pointer la DPJ du doigt, mais techniquement, c'est le bout de la ligne. Fait que techniquement, là, il y a bien des instances avant qui sont censées avoir fait leur job, dont les premiers, les parents. La famille élargie, l'entourage, le système scolaire, le système public, le CLSC, les médecins, les spécialistes. Ensuite, les médecins spécialistes, puis après ça, on se retrouve en DPJ. Donc, quand on pointe la DPJ du doigt, on pointe toute une société. On pointe toute une façon de fonctionner. Et dans ma lettre, vous allez voir, mon objectif, ce n'est pas de pointer un individu en particulier, c'est de pointer des instances qui, mon but, j'en fais pas moi de politique, puis j'en ferai pas, je leur lève mon chapeau. Sauf que ça ne fonctionne pas. Puis on n'est pas toujours écouté sur le terrain. Moi, je me rappelle avoir contribué à la commission Laurent, puis Madame Laurent, vous avez plein de belles recommandations qui sont tablettés, que parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est long, que ça change, ce sont des grosses machines. Mais on s'en va où avec tout ça? C'est parce que une des choses que vous avez nommées, Mme Laurent, c'est à quel point on ne doit pas travailler en silo, puis on continue encore à travailler en silo. Mais pas juste avec les intervenants, c'est aussi à travers les ministères, c'est dans toutes les strates. Alors bref, ça fait longtemps que j'avais le goût de prendre la parole par rapport à tout ce qui se passe des fois en protection et je me disais, prends ton gaz égal. Mais là, quand j'ai vu sortir toute cette vague-là entourant, dans le fond, le point initial qui a découlé en fait de tout ça, ça fait longtemps que le débat sur l'aliénation parentale existe. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Ailleurs dans le monde, il y a des endroits où est-ce que ça n'existe pas? Ils ont décidé d'abolir ce terme-là. Là, il y a des recommandations qui sont formulées actuellement pour que, est-ce que dans le fond, on va l'abolir ou pas. Et tout ça était aussi en lien avec, justement, dans le dossier de la journaliste Mme Yasmine, c'était justement parce qu'il y avait des femmes qui étaient sorties et nommaient justement qu'elles avaient perdu la garde de leurs enfants en lien avec des allégations. Elles, les femmes, disent qu'elles vivent de la violence conjugale et finalement se retrouvent à être accusées d'aliénation parentale alors que, dans le fond, on est dans un contexte de protection au niveau de la violence conjugale. Et là, c'est le débat qui est parti là-dessus. Donc, mon but, ce n'est pas de plaider pour la violence conjugale. Mon but, ce n'est pas de plaider pour l'aliénation parentale. Mon but, c'est d'amener une modération, une nuance, parce que pendant qu'on fait ce débat-là sur c'est quoi le bon concept, on ne donne pas de service. Puis on n'est pas en train de se questionner, selon moi, sur la réelle problématique, qui est le travail psycho-juridique qui doit être fait ensemble. Donc, j'y vais comme suit. Bien sûr, aussi, je vais utiliser le féminin parce que ça représente majoritairement la réalité du domaine que je vais traiter. Oui, il y a des intervenants hommes, il y a des juristes hommes, bien sûr, et tout ça, mais les travailleuses sont souvent beaucoup plus en majorité, donc c'est pour cette raison-là que je vais aussi utiliser le féminin. Alors, la véritable cible est écartée lorsqu'on débat de l'existence de l'aliénation parentale et de l'injustice subie par certaines mères en raison de violences conjugales non décelées. En réalité, selon la littérature et la pratique clinique, souvent les deux phénomènes existent et même s'interrelient. Certains parents accusent à tort leurs coparents de ne pas être en mesure de s'occuper de leurs enfants et alimentent ainsi une dynamique aliénante. Parallèlement, des auteurs de violence vont adopter des comportements aliénants pour maintenir une emprise sur la violence. Au lieu de débattre de l'existence de ces problèmes, puisque si on clive un concept au détriment d'un autre, on est en train de dire que le vécu de certaines familles n'existe pas. Comment les enfants vont être protégés dans ces cas-là? Il est primordial de se poser la question suivante. Comment un enfant en vient-il à couper le lien avec un parent? Tous les enfants ont besoin de liens affectifs, alors pourquoi rompt-il ce lien crucial avec un de ses parents? Des recherches sont nécessaires pour comprendre les dynamiques familiales et complexes, et on sait que c'est la recherche qui fait avancer l'innovation, qui fait avancer les interventions. Mais étudier des familles qui vivent des ruptures de liens ou être à risque, ça demande des études longitudinales, ce qui augmente aussi la complexité des études. Lorsque j'ai quitté la DPJ, c'est parce que j'étais trop souvent confrontée à des dilemmes éthiques. J'avais perdu confiance non pas en la mission, mais dans la manière de faire les choses. Je ne pouvais plus entériner ni signer des rapports justifiant des décisions parfois recommandées par des règles administratives plutôt que fondées sur le plan clinique. Mes supérieurs m'ont répondu à plusieurs reprises que les interventions que je proposais étaient très pertinentes, mais que soit nous manquions de place, soit nous manquions de temps, ou soit nous manquions d'argent. Pour prendre des décisions importantes pour un enfant, une évaluation rigoureuse est essentielle. Actuellement, le manque de temps et d'expertise conduit parfois à confondre aliénation et violence, et même pour ne pas dire conflit de séparation. Et une grande confusion s'est installée sur le terrain. Devant l'incertitude, certaines intervenantes préfèrent classifier la situation comme un conflit sévère de séparation, alors qu'on se retrouve soit dans un contexte d'aliénation ou dans un contexte de violence conjugale. Oui, les conflits sévères de séparation existent et peuvent dériver vers de l'aliénation, mais tout ça demande énormément de temps d'évaluation et d'intervention. Pourquoi les corps de police fonctionnent-ils par département d'expertise? Alors qu'à la DPJ, une même intervenante peut traiter de cas très différents les uns des autres, comme par exemple avoir un cas d'abus sexuel, de négligence, ou ce fameux 38C de mauvais traitement psychologique où on pourrait retrouver un conflit sévère de séparation. Ce n'est pas efficace, du moins ça ne le semble pas. Parce qu'on va travailler en urgence. Et parfois, le conflit de séparation ou les comportements de l'enfant qui vit un mauvais traitement psychologique causé par de l'exposition à la violence conjugale ou dans un contexte aliénant peuvent parfois apparaître moins urgents qu'un contexte d'abus physique ou de violence sexuelle. Dans la réalité, ils le sont tous tout autant. On semble s'attendre d'eux qu'ils soient des omnipraticiens de toutes ces situations, alors que chacune d'elles nécessite une formation et une expertise spécifique. Il existe d'autres corps de métier, on n'a pas les nommés, mais ils posent du câble pour que nous ayons accès aux télécommunications, qui vont être pendant plus de 13 semaines en formation. Alors qu'un psychologue, un travailleur social, un psychoéducateur qui termine ses études et qui se retrouve à la DPJ n'est pas apte à travailler et n'a pas l'expertise dans l'immédiat. Il a besoin d'avoir une formation et d'être accompagné pour être en mesure de pouvoir bien comprendre l'essence de la loi de la protection de la jeunesse. La formation des intervenants en protection de la jeunesse devrait être une priorité et des formations spécifiques par secteur d'intervention devraient être organisées. Il est questionnable que la formation des intervenants en protection de la jeunesse soit si peu prioritaire, alors qu'elles doivent prendre des décisions aussi importantes que de décider d'un projet de vie pour un enfant. Les intervenantes déplorent d'ailleurs cette situation et demandent et réclament plus de formation, plus de consultations cliniques autour de leur mandat difficile d'évaluation et d'intervention. Ainsi, ce manque criant fait aussi en sorte que parfois, elles n'arrivent pas à prendre de décision sans avoir l'aval de leur spécialiste clinique ou de leur chef, ce qui entraîne aussi des délais dans l'intervention. On retrouve la même philosophie avec la loi 15 pour les infirmières. On les envoie combler des besoins alors qu'elles ne sont pas formées pour ce département. Est-ce que nous gagnons vraiment à faire ça? Est-ce que le public est-il adéquatement desservi dans ces cas-là? Depuis que la DPJ est intégrée dans les CIS et dans les CIUS, on a observé ce que de nombreuses intervenantes avaient prédit et avaient nommé haut et fort au ministère. La DPJ devient le purgatoire d'intervenants peu expérimentés. Plusieurs intervenantes d'expérience parfois vont délaisser le bateau et aller vers d'autres postes dans d'autres départements en raison de la pression de la tâche qui ne fait plus aucun sens. Les intervenants de la DPJ devraient être des experts dans leur domaine et elles devraient être reconnues. Sur le terrain, ce qu'on constate est qu'une fois que la protection de la jeunesse a statué sur un alinéa, il est assez rare que ce dernier soit remis en question, à moins d'avoir des faits nouveaux. Mais dans la réalité, c'est que si, parfois, il faudrait revoir la méthode et les outils d'évaluation et ainsi, les conclusions s'avéreraient possiblement différentes. Une évaluation psychosociale peut prendre plus qu'une dizaine d'heures avec plusieurs rencontres avec les parents et les enfants. Alors qu'en protection de la jeunesse, l'intervenant dispose de 30 jours pour pouvoir statuer est-ce qu'il y a sécurité et développement compromis. Et si on s'en tenait à statuer sur est-ce qu'il y a sécurité et développement compromis, mais par la suite, allons creuser avec une évaluation beaucoup plus poussée pour être en mesure de déceler pour quelles raisons, qu'est-ce qui se joue. Lorsque la DPJ décide, par exemple, dans un contexte de toxicomanie, que le parent que l'enfant a sécurité et développement compromis par les raisons que le parent a une consommation qui est problématique, ils ne vont pas le déclarer comme étant toxicomane. Ils vont nommer qu'ils ont un problème de consommation qui vient compromettre la sécurité et le développement de l'enfant. Et ils vont référer vers une ressource spécialisée telle qu'un centre de réadaptation en consommation pour être en mesure d'avoir une évaluation plus poussée ou encore pour être en mesure de pouvoir avoir de l'intervention. Dans un contexte d'abus sexuel, ils vont statuer qu'il y a eu des gestes et par la suite vont être référés avec un psychiatre, avec un psychologue, avec un sexologue qui va être en mesure de pouvoir évaluer les risques de récidive et la dynamique de ce parent-là ou de cet adulte-là qui aurait eu des comportements et par la suite orienter l'intervention. Pourquoi dans un contexte de mauvais traitement psychologique en lien avec l'exposition à la violence conjugale ou dans un contexte d'aliénation parentale, de conflit sévère de séparation, il n'est pas de même. De plus, les intervenants en DPJ, pour y avoir été, n'ont pas le temps suffisant pour être en mesure d'offrir une intervention recommandée par la littérature dans les contextes de conflit sévère de séparation, d'aliénation ou de violence conjugale. On a besoin de faire une intervention rapide, intensive, familiale, pour être en mesure de pouvoir réduire au maximum les conséquences et de travailler à activer le changement. Ce n'est pas ce qu'on constate en protection, puisqu'on travaille avec l'urgence. Donc, chaque dossier qui est plus urgent, c'est lui que je vais faire mes interventions. Et ça, c'est non seulement en considérant toute la tâche clinico-administrative. Comment se fait-il que dans nos formations en protection de la jeunesse, j'ai accès plus rapidement à la formation pour rentrer mes statistiques que pour pouvoir être en mesure d'aller faire un témoignage adéquat à la cour ou d'être en mesure de pouvoir bien distinguer toutes les alinéas de la protection. La commission Laurent a recommandé que le travail des intervenants ne se fasse pas en silo entre organisations, mais malheureusement, il me semble aussi important qu'il y ait plus de consultations et une meilleure coordination aussi entre les ministères, tels que le ministère de la Justice, de la Santé et des Services sociaux, de la Famille. Puisque dans une situation de violence conjugale, d'aliénation parentale ou de conflit sévère de séparation, ce sont ces trois paliers qui se retrouvent à être touchés. Dans les contextes des familles séparées, des situations d'aliénation parentale et de violence conjugale, il n'y a pas actuellement de coordination entre la Cour supérieure, la Cour criminelle et la Chambre de la jeunesse. Nous tentons d'avoir un tribunal en lien avec les violences conjugales, mais c'est un tribunal unifié de la famille que ça prend, pour être en mesure que chacun puisse travailler ensemble. Actuellement, ils se lancent la balle, si bien qu'une famille peut se retrouver devant les trois instances en même temps, et ce, avec des conclusions différentes, ce qui installe de la confusion pour les familles et les intervenants. Donc, pendant que la DPJ est présente, la Cour supérieure est en attente que la DPJ sorte de la vie de cette famille-là, mais au moment où est-ce que le jugement de la Chambre de la jeunesse se ferme, se termine, eh bien, on réactive la Cour supérieure sans nécessairement s'adresser l'un à l'autre. Et si en plus, nous avons d'autres conditions en Cour criminelle, si on n'a pas un pivot qui a pris le temps d'aller parler à tout ce monde-là pour essayer de trouver une cohérence entre ces différents secteurs, on se retrouve à avoir une grande confusion. Les délais judiciaires, de même que les interventions psychosociales et juridiques non efficaces, peuvent aggraver la situation et même venir cristalliser les situations. L'approche systémique et psychojuridique est essentielle pour offrir des services adaptés. C'est d'ailleurs ce que la littérature et la recherche commencent à nous démontrer de plus en plus, que de travailler seul dans son bureau comme clinicien nous amène parfois à tourner en rond dans certaines situations qui nécessitent l'instance judiciaire pour être en mesure de faire appliquer des choses. Nous avons la chance d'avoir des innovations cliniques très intéressantes au Québec, mais elles sont sous-utilisées. Nous avons le programme PCR2, parentalité, conflit, résolution. Nous avons la coordination parentale. Nous avons les services d'audition amiable pour enfants. Nous avons les services de médiation familiale pour les parents qui se séparent et pour les couples qui se séparent. Nous avons du coaching coparental. Nous avons des thérapies familiales spécialisées en post-séparation. Mais celles-ci sont sous-utilisées. Il y a aussi, bien entendu, les services d'expertise. Mais encore là, on parle de des délais de parfois de plusieurs mois avant de pouvoir voir une famille. Le débat sur l'aliénation parentale et la violence conjugale n'est pas productif. Travaillons plutôt à établir un système central de réception des demandes, nonobstant leur provenance de paliers de tribunal. puis effectuant un triage des demandes avec des évaluations rigoureuses et ainsi pouvoir orienter les services psychojuridiques nécessaires afin d'aider adéquatement les familles. Il faut également instaurer un tribunal unifié de la famille qui est réclamé depuis 1975. Il y a une urgence d'agir. Les enfants sont forcés d'attendre alors qu'ils sont en pleine croissance et ont besoin de services qui servent leurs meilleurs intérêts et leur protection. Lorsque j'ai entendu la conférence du 7 février dernier avec Mme Zakour et avec d'autres partenaires, il y a des choses que j'ai retenues et qui m'ont amené à me dire, est-ce que c'est vraiment la solution? Parce qu'actuellement, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est qu'on souhaiterait, dans le fond, abolir le terme aliénation parentale parce que parfois, il est mal utilisé, il est mal compris, et cela peut amener justement des situations où est-ce qu'on va défocusser le target de la violence conjugale pour pouvoir plutôt parler d'aliénation parentale. Donc, on ne travaillera pas la bonne cible. En même temps, ce que j'en comprenais aussi, c'était que parce que ce terme-là est tellement controversé, tellement difficile à bien comprendre, à bien évaluer, qu'on préfère le bannir. Mais au final, on va se retrouver avec des situations similaires. Si le besoin qui a été nommé, c'est qu'on manque de formation, on manque que le système psychojudiciaire soit adéquatement formé, faisons-le. Mettons en place justement ce que je viens de nommer dans la lettre, des stratégies efficaces de communication pour être en mesure d'avoir des formateurs, des services qui vont être spécialisés. Pendant qu'on fait ce débat-là, on n'intervient pas. L'autre chose, c'est que je comprends dans un contexte de partisanerie où est-ce que, de leur côté, ils représentent un groupe de personnes. Et durant la conférence, une des conférencières a nommé justement en fait que, à la suite d'un témoignage qui avait eu lieu, qu'ils n'avaient pas rencontré d'autres genres de cas. Mais est-ce que ça veut dire que le fait que vous n'ayez pas rencontré ce genre de cas, ça n'existe pas? Je ne pense pas. Des situations de violence conjugale, il y en a de différentes sortes. Effectivement, je vais en nommer quelques-unes simplement, mais il arrive qu'il y a une situation où est-ce que la femme est dans une relation de violence conjugale connue et sue de la victime et que lorsqu'elle se sépare, la violence va continuer et qu'à ce moment-là, l'auteur de la violence va utiliser parfois l'aliénation parentale pour continuer justement son emprise. Ça, c'est une forme. Mais on a aussi les formes où est-ce que les femmes ne sont même pas conscientes qu'elles vivent une relation de violence conjugale parce qu'il n'y a peut-être pas eu de gestes physiques et que pour elles, c'était une relation très conflictuelle, alors que quand elles sortent de cette relation-là et qu'elles reprennent un courant de vie différent, parfois certaines vont prendre conscience de ce qu'elles ont vécu, qu'on appelle du contrôle coercitif, qui va beaucoup être par des outils psychologiques de l'auteur de violence. Et l'aliénation parentale, dans ces cas-là, peut être mise en place justement par l'auteur, mais parfois la personne qui en est victime n'en est même pas consciente. Et après coup, l'auteur va utiliser les enfants pour continuer, hein, dans le fond, à avoir l'emprise sur cette victime-là parce que devant le fait que les enfants ne veulent plus aller la voir ou quoi que ce soit, ça devient extrêmement difficile. Et là, on se retrouve à avoir une situation très, 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 très complexe. Il y a des situations où est-ce qu'il n'y avait pas de violence pendant l'union et on sait que la séparation, c'est un facteur de risque très important à soit l'installation de la violence ou à l'aggravation de la violence. Ce qui fait en sorte que dans certaines situations où est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement de violence pendant la relation, post-séparation, dû à plusieurs facteurs que je ne veux pas nécessairement expliquer ici, il va s'installer des situations où est-ce que justement on va tomber dans de l'aliénation parentale. Mais il y a aussi le contexte où est-ce qu'il y avait des couples qui se séparent et qu'ils se chicanent extrêmement et que ils n'ont pas la même vision, et là, l'enfant et les parents vont avoir des comportements aliénants de part et d'autre. Et donc, il y a plusieurs sortes de familles, il y a plusieurs situations en violence pour avoir nommé que celle-là. Ça veut donc dire que ce n'est pas tout blanc, tout noir. Quand on clive d'un côté ou de l'autre, bien, on oublie une facette de la réalité, et c'est là où est-ce que c'est vraiment la bonne voie à suivre? Parce que l'enfant souffre il faut qu'on trouve. Et le parent qui a des comportements aliénants souffre, et le parent qui est rejeté ou le parent qui vit de la violence, eux vit aussi, justement, de la détresse. Donc, on a besoin d'aider ces gens-là. On est dans une société où est-ce qu'on veut consommer rapidement des solutions. Hein, j'ai une collègue qui disait, on veut du fast-food. Hein? Je veux commander quelque chose que je vais consommer rapidement puis je vais pouvoir jeter après. Et quand les tribunaux demandent, je veux une expertise, donnez-moi le résultat, qu'en est-il pour qu'après ça, je puisse trancher oui ou non. Alors que la réalité, et c'est ça que beaucoup d'experts et de beaucoup de professionnels dans le domaine vont venir nommer, il faut être prudent avec ce genre de situation-là. Il faut évaluer longtemps pour être en mesure de pouvoir bien déceler et de bien comprendre. Un auteur de violence dans le contrôle coercitif ne va pas se démontrer et se dévoiler dans une première rencontre. Ça va se faire à long terme. On va voir déceler des choses. Donc, certains intervenants, parfois, peuvent se faire leurrer. Certains intervenants aussi, parfois, peuvent cliver et peuvent prendre beaucoup d'un côté d'un parent. Le parent qui est auteur de violence, il n'a pas le droit de faire ces comportements-là, mais il a le droit d'être compris, puis il a le droit de pouvoir aussi, en fait, avoir des services. Et il va falloir qu'il se responsabilise pour être en mesure de pouvoir changer. Parce que l'enfant, quand on leur parle, souvent, ce qu'il souhaite, c'est que la situation cesse pour avoir accès aux individus parentaux qu'ils aiment. Donc, la personne qui est victime doit être en mesure, elle, de son côté, de pouvoir sortir de cette situation-là et être en mesure de pouvoir se positionner différemment. Parfois, on les stigmatise et on les réétiquette encore plus. On leur dit quoi faire, on les dit, puis en plus, parfois, en fait, on dit qu'on les responsabilise de ce qu'elles ont vécu, alors que ce n'est pas le cas. Par contre, je peux faire des choses. Donc, des deux côtés, on a besoin de travailler pour être en mesure d'aider adéquatement ces familles-là. Alors écoute, j'espère que tu auras trouvé ça aussi important que moi comme sujet. C'est sûr que ça m'interpelle parce que je travaille avec ce genre de famille à tous les jours. Et qui sait, Guya Lepage, c'est le goût qu'on jase, à tout le monde en parle. Ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est un sujet qui est sociétal. C'est près d'un couple sur deux qui se sépare. On connaît tous un couple que sa séparation a mal viré. Et les gardes partagées sont de plus en plus fréquentes, alors on n'a pas fini d'en entendre parler et d'en voir. On est de plus en plus conscient aussi des dynamiques de violence, alors on va continuer encore à en voir. Alors, comment aider ces familles-là? Et j'ai envie de pouvoir aussi ajouter un élément parce que certains vont nommer aussi que l'aliénation parentale, ce n'est pas documenté scientifiquement. En fait, c'est complexe, comme je disais, faire de la recherche. Par contre, en fait, quand on fait des études, on est en mesure de pouvoir, avec des interjuges, avec de la fiabilité de différentes, si j'interroge, par exemple, plusieurs professionnels, être en mesure d'avoir quand même plusieurs retours cliniques qui permettent de pouvoir démontrer un certain phénomène, un système qui se met en place. L'aliénation parentale, ce n'est pas quelque chose qui appartient à une personne, c'est quelque chose qui est dynamique, donc c'est le système au complet qui est malade. Il y a beaucoup de controverses sur cette définition-là. Par contre, il y a un certain consensus sur le fait que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que d'un simple diagnostic. C'est vraiment une dynamique interfactorielle, systémique et familiale qui demande évaluation et intervention poussée. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs écrits qui sont disponibles. Je vais vous en mettre quelques-uns. Vous allez pouvoir aller alimenter et continuer à vous enrichir. Et dites-moi, comment ça vous a fait réagir aujourd'hui? Bien entendu, je vous invite à partager cet épisode. Je ne vous demande pas ça souvent, mais là, je vous le demande. Recommandez-le, partagez-le, parce qu'on a besoin de gris pour être en mesure de définir de meilleures barrières. Si tu aimes le contenu de podcast Corsé, abonne-toi, laisse une note. Ça aide à faire connaître le podcast et de faire en sorte que d'autres parents puissent avoir accès aussi à ces informations. Je te souhaite une belle semaine et on se revoit bientôt. Bye!
J'espère que ça va avoir été aidant pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça, sache qu'en fait, j'ai des formations en ligne maintenant qui sont disponibles sur mon site web. Tu pourras les retrouver dans le descriptif de l'épisode. Mais au niveau justement de la coparentalité, au niveau de la réussite en fait de sa séparation conjugale, je dirais plutôt dire en fait d'apprendre à composer et à redéfinir justement notre famille, les enjeux qui entourent la recomposition familiale et en fait tous les aspects en fait je dirais techniques et financiers associés aussi à une séparation conjugale, c'est important d'être informé. Fait que s'il y a un de ces sujets-là qui t'interpelle, dont celui par exemple d'aujourd'hui, bien, tu peux aller voir et aller plus loin. Est-ce que tu savais qu'en étant abonné à mon podcast, tu as droit à un code promo? Il te suffit d'entrer Corsé en majuscule C-O-R-S-E et ça te donne droit, une fois, d'avoir justement un code promo sur un de mes services, accompagnement, webinaire, formation en ligne. Alors, pourquoi pas l'utiliser? On se voit la semaine prochaine. Bye bye!